Chapitre 10. Blaise Pascal. Sur les épaules des géants. Bornons ce respect que nous avons pour les anciens. Il y a deux Blaise Pascal. Le premier est un homme de science parmi les plus brillants du XVIIe siècle. Mathématicien, physicien, ingénieur, il est notamment l'un des pères de la théorie des probabilités, aux côtés de Fermat. On lui doit l'invention et la construction de la première machine à calculer mécanique, la pascaline, et il aura surtout marqué l'histoire des sciences par ses expérimentations sur le vide et la pression de l'air. Le système international s'en souviendra en associant son nom à l'unité de mesure de la pression. Un pascal, noté PA, est une contrainte uniforme qui, sur une surface de 1 mètre carré, exerce perpendiculairement à cette surface une force d'1 newton, seul autre savant du XVIIe siècle à qui le système international des unités de mesure rend honneur. La pression atmosphérique normale, par exemple, vaut 1013,25 hectopascales. Et non, on ne dit pas pascaux. L'autre Blaise Pascal est bien différent. C'est un homme de foi, solitaire et rigoriste, tournant le dos au monde pour se consacrer à Dieu, viscéralement attaché à la religion catholique et surtout au jansénisme, une doctrine théologique très débattue en cette époque, mettant l'accent sur le fait que l'homme obtient son salut non par sa propre liberté, mais par la seule grâce de Dieu. Ces deux Pascal n'ont pas vécu en même temps. Le premier a laissé place au second dans la soirée du 23 novembre 1654, aux alentours de minuit, heure propice au crime. En l'occurrence, ce fut une expérience mystique intense que Pascal traversa et dont il consigna immédiatement les impressions par écrit. Il n'en parla à personne, mais recopia ce témoignage sur parchemin et conservera sa vie durant la copie et l'original cousus à l'intérieur de son manteau. C'est là qu'ils seront finalement découverts, après sa mort, 8 ans plus tard. Dans ce texte singulier, on l'appelle aujourd'hui le mémorial de Pascal, écrit sur le vif, il est question pêle-mêle de « feu » en lettres capitales, de « joie, joie, joie et pleurs de joie », du « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants », et de « soumission totale à Jésus-Christ ». C'est bien la moindre des choses quand on vient d'être touché par la grâce. Ainsi, Pascal aurait-il trouvé la foi à la suite de cette extase religieuse que l'on appellera plus tard sa nuit de feu. Et les 8 dernières années de sa vie en seront profondément marquées. Le nouveau Pascal dédaignera les occupations scientifiques de l'ancien. Ces questions oiseuses qui accaparent tant d'esprits brillants ne sont, aussi bien que la chasse ou les jeux d'argent, que des divertissements qui nous écartent de l'essentiel, à savoir de Dieu. Dans ces dernières années, Pascal renonce donc aux travaux scientifiques. Il retravaillera une seule fois sur un problème mathématique entre 1657 et 1658. Selon le récit de sa nièce Marguerite Perrier, ce retour serait dû à une rage de dents. Pour tâcher de se distraire de la douleur intense qu'elle lui causait, Pascal voulut occuper son esprit à résoudre un problème difficile sur les cycloïdes qui lui avaient été posés dans sa jeunesse. Et il le résolut. Mais cette histoire est peut-être un peu trop belle pour être tout à fait vraie. Et Pascal, donc, tournant le dos aux sciences, s'efforce plutôt de rédiger un ouvrage qu'il souhaite intituler « Apologie de la religion chrétienne » et qu'il n'achèvera jamais. Il laisse à sa mort 1 millier de fragments qui seront rassemblés et publiés de façon posthume sous le titre de « Pensée » et qui forment son œuvre la plus importante. Elle contient bon nombre de pages magnifiques et de formules immortelles. En voici par exemple 2 passages parmi les plus célèbres. « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. » Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Le but de Pascal dans ses pensées semble être toujours l'apologie du christianisme. Quoi qu'il écrive, il s'agit de nous ramener à Dieu. Et à cette fin, tous les moyens sont bons. L'usage d'arguments rationnels n'en est qu'un parmi d'autres, et pas nécessairement le meilleur. Après tout, ce ne sont pas des arguments rationnels qui ont amené sa conversion. Pascal insiste bien davantage sur l'impuissance de la raison et l'orgueil de ceux qui n'en tiennent pas compte. Le vertige face à l'immensité de l'univers ne sert pas à autre chose. Revenons au premier Pascal, le brillant mathématicien et physicien qui n'a pas encore été touché, brûlé par la foi. Il est plus terre à terre, moins enclin au sublime, mais n'en demeure pas moins philosophe. Pascal, dans l'histoire des sciences, doit sa célébrité surtout à son expérience du puits de Dôme. Pour en faire comprendre les enjeux, il faut dire un mot du phénomène étonnant que l'on cherchait alors à expliquer. Remplissez un tube de mercure d'un mètre de long environ. Bouchez-le, retournez-le à la verticale, placez l'extrémité bouchée dans une cuve de mercure, puis libérez le bouchon. Le niveau dans le tube de mercure descendra aux alentours de 76 cm au-dessus du niveau de la cuve. La valeur précise variera de quelques centimètres selon les jours. Si vous remplacez le mercure par de l'eau et le tube d'un mètre par un tube d'au moins 11 mètres, vous observerez un phénomène similaire. Le niveau de l'eau descendra jusqu'à environ 10,33 mètres. Ce sont d'ailleurs les fontainiers de Florence qui ne parvenaient pas à faire monter l'eau dans leurs pompes au-delà de cette hauteur qui sont à l'origine de la découverte de ce phénomène déroutant. Le savant italien Torricelli, chargé de résoudre le problème des fontaines, fut le premier en 1643 à concevoir et réaliser l'expérience du mercure. Pascal ne fait jamais mention de Torricelli, il écrit seulement que ses expériences ont été faites en Italie. Il faut avouer que ce n'est pas très fair-play. Et Torricelli donc fait l'hypothèse audacieuse que si la colonne de mercure descend jusqu'à ce niveau d'environ 76 cm, ou de même si une colonne d'eau ne peut monter plus haut que 10,33 mètres, ce qui correspond à la même pression, le mercure étant 13,6 fois plus lourd que l'eau, c'est parce qu'elle est alors en équilibre avec la pression exercée par la colonne d'air sur la surface de la cuve, tout à fait comme un équilibre entre deux poids sur une balance. Mais cette idée d'une pression de l'air était alors nouvelle et très contre-intuitive. L'air, de toute évidence, ne pèse pas sur nos têtes. En outre, cela s'opposait à l'explication la plus commune selon laquelle la nature a horreur du vide. Ce principe, attribué à Aristote, et comme bien des formules qui lui sont prêtées, Aristote ne l'a jamais employé, mais il était effectivement convaincu de l'impossibilité du vide, semblait justifier intuitivement l'aspiration de l'eau dans les pompes à pistons et bien d'autres phénomènes semblables. Mais les fontaines de Florence et l'expérience de Torricelli avaient apporté au débat un élément dont les auteurs de l'Antiquité ne pouvaient pas disposer, à savoir que cette horreur du vide semblait être en quelque sorte vaincue par un peu plus de 10 mètres d'eau ou 76 cm de mercure. Bizarre nature qui ne répugne au vide que jusqu'à un certain point. Mais était-il moins étrange de croire que l'océan d'air qui nous entoure pèse sur nos épaules autant que 10 mètres d'eau? Nous ne ressentons assurément rien de tel. Aux yeux de la plupart des savants de l'époque, l'idée d'une pression de l'air restait malgré tout bien plus difficile à admettre que celle d'une répugnance au vide un peu moins implacable que prévu. Il faut ajouter que beaucoup d'auteurs mettaient en doute que l'espace apparemment vide au-dessus de la colonne de mercure le fût réellement. Un excellent argument pour le justifier était le suivant : la lumière peut le traverser. En effet, soit la lumière était considérée comme une forme de matière, et dans ce cas cet espace n'était pas vide puisqu'il était traversé par ces corpuscules de lumière, soit la lumière était considérée comme une onde, c'est-à-dire la propagation d'une perturbation dans un milieu, souvent appelé éther, et dans ce cas, l'espace vide en apparence était en fait rempli par ce milieu. Dans les deux cas, pas de vide. Pascal faisait partie des rares personnes convaincues par l'explication de Torricelli et il voulait en fournir une preuve encore plus solide. L'expérience du mercure était déjà assez concluante, mais ne suffisait pas à établir fermement la supériorité de la théorie de la pression de l'air. Il aurait fallu mettre en évidence un autre effet de celle-ci qui ne puisse pas se laisser expliquer aussi bien par celle de l'horreur du vide. Pascal eut alors l'idée suivante. En réalisant l'expérience de Torricelli au sommet d'une montagne, où la pression de l'air doit être moindre, puisque, en raison de l'altitude, la colonne d'air y serait moins haute, et donc pèserait moins, la colonne de mercure en équilibre avec celle-ci devrait être, elle aussi, moins haute que si l'expérience était réalisée au pied de cette montagne. La théorie de l'horreur du vide, à l'inverse, n'avait aucune raison de prédire une telle variation. Ainsi, l'expérience permettrait bien de trancher entre les deux théories. Pour tester son hypothèse avec un maximum de sûreté, Pascal fait réaliser simultanément et devant témoin deux expériences. Le 19 septembre 1648, à Clermont-Ferrand, deux tubes de mercure sont renversés dans des cuves de mercure et l'on constate que les colonnes descendent ce jour-là jusqu'à 71,2 cm au-dessus du niveau de la cuve. L'un des deux tubes est alors laissé là sous surveillance jusqu'à la fin de la journée et son niveau ne variera pas. Tandis que l'autre est emporté jusqu'au sommet du Puy de Dôme, soit environ 1000 mètres plus haut. L'expérience de Torricelli y est répétée et l'on observe que la colonne de mercure descend jusqu'à 62,7 cm, ce qui ne laisse pas de surprendre les témoins. Sur le chemin du retour, à mi-hauteur, l'expérience est encore répétée et donne une valeur intermédiaire, 67,7 cm. Voilà qui tranche sans ambiguïté en faveur de la théorie de la pression de l'air. Comme le note Pascal, on ne saurait pas dire que la nature aborde le vide au pied de la montagne plus que sur son sommet. Lettre de Pascal à Marguerite Perrier du 15 novembre 1647. Tout cela aujourd'hui peut sembler assez ordinaire et convenu. Hypothèse, prédiction, double expérience, test et témoin, confirmation. Certains pourraient se plaindre que ce n'est pas de la philosophie, mais de la science, et pas même de la science impressionnante et vertigineuse, rien que de la petite science propre sur soi qui suit scrupuleusement la méthode vue en cours. Mais ce serait oublier qu'à cette époque précisément, la science telle que nous la connaissons n'existe pas. Pascal n'applique donc pas une méthode scientifique préexistante pour réaliser son expérience du Puy de Dôme. C'est lui-même qui, à travers sa démarche, façonne cette méthode. Et si elle nous paraît aujourd'hui si évidente et exemplaire, c'est tout à son honneur. Au XVIe et XVIIe siècle, la philosophie ne se distingue pas encore de la science. La physique se confond avec la philosophie naturelle, ainsi Newton intitulera son œuvre sur la théorie de la gravitation « Principe mathématique de philosophie naturelle », et sa méthode, ses outils, ses limites, la conception même des sciences en général, sont en train de se dessiner à cette époque. Les acteurs de ce qui finira par être appelé la révolution scientifique ne sont donc pas des scientifiques travaillant dans un cadre méthodologique et conceptuel déjà établi, mais bien des philosophes élaborant petit à petit ce cadre, développant une nouvelle façon d'étudier la nature. Deux des principales innovations sont le recours à l'expérimentation et un usage plus poussé de la formalisation mathématique, rendu possible notamment par de nouveaux instruments de mesure et d'observation beaucoup plus précis. Les sciences modernes, à commencer par la physique, naîtront de ces efforts. Ce n'est pas rien. Pascal, par ses travaux et expérimentations sur le vide et ses réflexions sur la méthode expérimentale, est un acteur de ce mouvement. Pas un acteur aussi majeur que Galilée, Descartes ou Newton, certes. L'aurait-il été s'il n'avait pas été touché par la grâce un soir de novembre ? C'est possible, mais Dieu seul le sait et se garde bien de nous le dire. Dans son projet de préface à un traité du vide, Pascal discute longuement du rapport des savants modernes aux auteurs de l'Antiquité. L'enjeu est crucial à cette époque, car si la révolution scientifique est une révolution, c'est notamment parce qu'elle s'oppose à certains aspects de la philosophie aristotélicienne qui, depuis la redécouverte de ses textes en Europe à la fin du Moyen-Âge, s'était imposée comme le cadre théorique dominant pour l'explication de la nature. Et contrairement à une idée répandue, cette situation ne résulte pas du fait que l'Église impose autoritairement l'enseignement d'Aristote comme une vérité incontestable. C'est avant tout parce que sa philosophie naturelle est très solide et empiriquement fondée. Ainsi, à partir de la période moderne, blâmer les erreurs d'Aristote et des aristotéliciens deviendra le sport favori des philosophes et des scientifiques, et nous avons vu dans le deuxième chapitre que la tradition perdure encore aujourd'hui. Pascal aurait lui-même toutes les raisons de s'en donner à cœur joie sur la question du vide où sa position s'oppose frontalement à celle des aristotéliciens. Mais de façon intéressante, Pascal ne tombe pas dans la critique caricaturale et prononce un éloge paradoxal des anciens. Selon lui, en effet, il faut respecter ces auteurs de l'Antiquité et les prendre en exemple. Mais c'est justement pour cette raison que nous ne leur devons pas un respect inconditionné et qu'il est légitime de les corriger là où l'expérience ou le raisonnement leur découvre des erreurs. Aristote aurait prononcé une formule cinglante sur son prédécesseur « Platon est un ami, mais la vérité est une plus grande amie encore ». La formule est célèbre en latin « Amicus Plato sed magis amica veritas ». On ne la trouve pas exactement chez Aristote, mais elle est inspirée d'une formule assez proche au début de l'Éthique à Nicomaque qui fait allusion à Platon. Si les amis et la vérité nous sont également chers, c'est à la vérité qu'il convient de donner la préférence. Et en effet, Aristote ne se gênait pas pour défendre ce qu'il tenait pour vrai, quitte à contredire au passage son ancien maître et ami. Pour Pascal, c'est précisément cette attitude des anciens dont il faut s'inspirer. Plutôt défendre la vérité que respecter l'autorité. C'est en critiquant les anciens que nous nous montrerons dignes de leur exemple, puisque eux-mêmes ont gagné notre estime en n'hésitant pas à en faire autant vis-à-vis de leurs prédécesseurs. Pascal écrit ainsi dans sa préface au traité du Vide. Partageons avec plus de justice notre crédulité et notre défiance, et bornons ce respect que nous avons pour les anciens. Comme la raison le fait naître, elle doit aussi le mesurer. Et considérons que, s'ils fussent demeurés dans cette retenue de n'oser rien ajouter aux connaissances qu'ils avaient reçues, et que ceux de leur temps eussent fait la même difficulté de recevoir les nouveautés qu'ils leur offraient, ils se seraient privés eux-mêmes et leur postérité du fruit de leurs inventions. Comme ils ne se sont servis de celles qui leur avaient été laissées que comme de moyens pour en avoir de nouvelles, et que cette heureuse hardiesse leur avait ouvert le chemin aux grandes choses, nous devons prendre celles qu'ils nous ont acquises de la même sorte, et à leur exemple en faire les moyens et non pas la fin de notre étude, et ainsi tâcher de les surpasser en les imitant. Car qu'y a-t-il de plus injuste que de traiter nos anciens avec plus de retenue que n'ont fait ceux qui les ont précédés, et d'avoir pour eux ce respect inviolable qu'ils n'ont mérité de nous que parce qu'ils n'en ont pas eu un pareil pour ceux qui ont sur eux le même avantage. Les secrets de la nature sont cachés. Quoiqu'elle agisse toujours, on ne découvre pas toujours ses effets. Le temps les révèle d'âge en âge, et quoique toujours égale en elle-même, elle n'est pas toujours également connue. Les expériences qui nous en donnent l'intelligence multiplient continuellement. Et comme elles sont les seuls principes de la physique, les conséquences multiplient à proportion. C'est de cette façon que l'on peut aujourd'hui prendre d'autres sentiments et de nouvelles opinions sans mépris et sans ingratitude, puisque les premières connaissances qu'ils nous ont données ont servi de degré aux nôtres et que, dans ces avantages, nous leur sommes redevables de l'ascendant que nous avons sur eux. Parce que, s'étant élevés jusqu'à un certain degré où ils nous ont portés, le moindre effort nous fait monter plus haut. Et avec moins de peine et moins de gloire, nous nous trouvons au-dessus d'eux. C'est de là que nous pouvons découvrir des choses qu'il leur était impossible d'apercevoir. Notre vue a plus d'étendue, et quoiqu'ils connussent aussi bien que nous tout ce qu'ils pouvaient remarquer de la nature, ils n'en connaissaient pas tant néanmoins, et nous voyons plus qu'eux. Blaise Pascal, préface au traité du Vide. Ce dernier passage développe le thème des nains sur les épaules des géants qui sera souvent repris par les modernes et notamment par Newton, qui n'avait pourtant rien d'un nain, qui écrit dans une lettre devenue célèbre « Si j'ai vu plus loin, c'est en montant sur les épaules de géants ». Lettre de Newton à Robert Hooke du 5 février 1675. Cette idée est en fait formulée pour la première fois par un philosophe médiéval, Bernard de Chartres, justifiant la supériorité des grammairiens de son temps. Il écrivait « Nous sommes comme des nains assis sur les épaules de géants. Si nous voyons plus de choses et plus lointaines qu'eux, ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue ni de notre grandeur, c'est parce que nous sommes élevés par eux. » Autrement dit, le progrès des connaissances est cumulatif. Chaque génération bâtit sur ce que la précédente a laissé. Et donc, quoique les plus grands soient souvent les premiers, les plus haut placés seront toujours les derniers. Pour voir loin, ce n'est pas la taille qui compte, mais les épaules sur lesquelles on se tient. Dans la suite du texte, Pascal va jusqu'à proposer un renversement paradoxal. Il serait erroné de se représenter les auteurs de l'Antiquité comme de vieux sages aguerris par une longue expérience. Ils sont au contraire comme des enfants, nouveaux en toutes choses. Tandis que nous, modernes, ayant pu recueillir et profiter des expériences accumulées de tant de siècles, nous sommes effectivement des anciens. L'homme, écrit Pascal, est dans l'ignorance au premier âge de sa vie, mais il s'instruit sans cesse dans son progrès, car il tire avantage non seulement de sa propre expérience, mais encore de celle de ses prédécesseurs, parce qu'il garde toujours dans sa mémoire les connaissances qu'il s'est une fois acquises et que celles des anciens lui sont toujours présentes dans les livres qu'ils en ont laissés. Et comme il conserve ses connaissances, il peut aussi les augmenter facilement. de sorte que les hommes sont aujourd'hui en quelque sorte dans le même état où se trouveraient ces anciens philosophes s'ils pouvaient avoir vieilli jusqu'à présent, en ajoutant aux connaissances qu'ils avaient celles que leurs études auraient pu acquérir à la faveur de tant de siècles. De là vient que, par une prérogative particulière, non seulement chacun des hommes s'avance de jour en jour dans les sciences, mais que tous les hommes ensemble y font un continuel progrès à mesure que l'univers vieillit, parce que la même chose arrive dans la succession des hommes que dans les âges différents d'un particulier. De sorte que toute la suite des hommes pendant le cours de tant de siècles doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement. D'où l'on voit avec combien d'injustice nous respectons l'Antiquité dans ses philosophes. Car, comme la vieillesse est l'âge le plus distant de l'enfance, qui ne voit que la vieillesse dans cet homme universel ne doit pas être cherchée dans les temps proches de sa naissance, mais dans ceux qui en sont les plus éloignés. Ce que nous appelons « ancien » était véritablement nouveau en toute chose et formait l'enfance des hommes proprement. Et comme nous avons joint à leur connaissance l'expérience des siècles qui les ont suivis, c'est en nous que l'on peut trouver cette antiquité que nous révérons dans les autres. Blaise Pascal, préface au traité du vide. Belle idée que cette humanité vieillissante au fil des siècles. Les vieux sages grecs ne sont que des enfants, tandis que le jeune Pascal, qui a lu Galilée aussi bien qu'Aristote, est comme un vieillard fort d'une expérience de 2 millénaires. Et si l'âge donne quelque sagesse, c'est donc en nous aujourd'hui, plus qu'en nos lointains aïeux, qu'il faut la respecter. Imaginons qu'Aristote ait pu vivre ou être transporté jusqu'au XVIIe siècle. Aurait-il alors suivi l'opinion des aristotéliciens qui continuaient, contre Galilée et Pascal, à défendre le géocentrisme et l'horreur du vide ? Il est hasardeux de répondre, mais j'ai tendance à penser qu'il se serait senti plus proche intellectuellement des savants audacieux qui le contredisaient que des scolastiques qui refusaient de remettre en cause son autorité. Aristote, après tout, était lui-même en son temps un esprit des plus curieux et novateurs qui n'hésitait ni à s'opposer à ses maîtres, ni à disséquer des poulpes ou des embryons de poulets pour en apprendre davantage sur le monde naturel. Les commentateurs d'Aristote qui n'ont jamais disséqué que des textes connaissent fort bien le philosophe, mais lui ressemblent fort peu. En fin de compte, ne respecte-t-on pas davantage sa pensée en l'imitant dans sa démarche plutôt qu'en l'approuvant dans ses conclusions ? J'aime imaginer qu'Aristote, au siècle de Pascal, aurait pu prendre la défense de ce dernier et écrire « Les aristotéliciens sont mes amis, mais la vérité est une plus grande amie ». Quelques livres pour aller plus loin. Blaise Pascal, De l'esprit géométrique et autres textes, Flammarion, collection GF, 1985. Ce petit recueil contient plusieurs textes courts et atypiques de Pascal, ou transcrivant des propos qui lui sont attribués, notamment cette préface au traité du vide dont nous venons de lire quelques passages. Celui qui donne son titre au recueil, De l'esprit géométrique et de l'art de persuader, porte lui aussi sur un sujet plutôt scientifique, tout au moins en apparence, puisqu'il devait servir de préface à un traité de géométrie. Mais sous certains aspects, ce texte, rédigé peu après sa « Nuit de feu », esquisse déjà des thèmes chers au Pascal des pensées, notamment le vertige face à la double infinité dans laquelle toute grandeur est prise, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, et surtout l'impuissance de la raison devant les axiomes de la géométrie, ces indémontrables points de départ de toute démonstration, qui sont, selon Pascal, des vérités de cœur dont nous ne pouvons pas être convaincus rationnellement, mais que nous sentons vraies sous l'effet d'une lumière naturelle. Pascal avait foi en Euclide avant d'avoir foi en Jésus-Christ. Blaise Pascal, Pensée, Gallimard, 1977. Je ne saurais mieux vous donner envie de plonger dans ces pensées qu'en citant l'une des plus célèbres et sublimes pour me taire ensuite. Pascal écrit « Tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée. Que l'homme, étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qui est. » qu'il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature, et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même son juste prix. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ? Mais pour lui présenter un autre prodige aussi étonnant, qu'il recherche dans ce qu'il connaît les choses les plus délicates, qu'un ciron lui offre dans sa petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans ses veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ses humeurs, des vapeurs dans ses gouttes, que, divisant encore ces dernières choses, il épuise ses forces en ses conceptions. Qui n'admirera que notre corps, qui tantôt n'était pas perceptible dans l'univers, imperceptible lui-même dans le sein du tout, soit à présent un colosse, un monde, ou plutôt un tout à l'égard du néant où l'on ne peut arriver. Qui se considérera de la sorte, s'effraiera de soi-même et se considérant soutenu dans la masse que la nature lui a donnée, entre ces deux abîmes de l'infini et du néant, il tremblera dans la vue de ces merveilles. Et je crois que, sa curiosité se changeant en admiration, il sera plus disposé à les contempler en silence qu'à les rechercher avec présomption. Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout.